Chanel. Aujourd'hui, à On dira ce qu'on voudra, 10 choses que Julien Morissette déteste de Louis-Jean Cormier, sur les traces de Bye Bye, mon cowboy, 30 ans plus tard, et une rencontre avec le comédien Steve Laplante. Ces jours-ci, on peut voir le comédien Steve Laplante dans la peau d'un enquêteur dans la pièce Invisible qui est présentement à l'affiche à la Petite Licorne à Montréal. Vous avez vu Steve Laplante de nombreuses fois à la télévision. C'était lui le comptable de l'agence dans Les hauts et les bas de Sophie Paquin. C'était lui le beau-frère dans Aveu de Serge Boucher. Son visage, en fait, nous est vraiment familier, mais on connaît moins l'homme. Ouais. C'est ma job aujourd'hui. Salut Steve.
Salut.
Ça va bien?
Très bien.
Merci de te prêter au jeu de l'entrevue. On va commencer avec Invisible, ouais. D'abord. J'ai vu, parce que ça aborde sensiblement le même univers que Fugueuse. Oui. C'est vraiment le sujet de l'heure. Oui. Des jeunes filles qui fuguent. Dans le cas d'Invisible, elle est vraiment à la recherche d'une vie meilleure, plus libre, puis finalement elle va tomber... ça se passera pas comme elle voudra, mettons. Et c'est sûr qu'une fiction comme Fugueuse, diffusée sur un grand réseau à heure de grande écoute, ça va rejoindre plus de monde. Mais d'après toi, comment le théâtre, dans sa forme, peut aller ailleurs?
Il va ailleurs dans le propos. Souvent, il peut creuser un peu plus qu'à la télé. À la télé, on dirait qu'on sert des situations pour faire parler. Tandis qu'au théâtre, on dirait qu'on a une place plus grande pour aller dans la tête des personnages.
Ah,
puis on a moins de...
On est moins dans le spectaculaire?
Ouais, mais la télé, c'est quand même contrôlé. Tu sais, au théâtre, il y a une plus grande liberté, je trouve. Puis il y a une plus... la place est plus grande pour les auteurs, pour fouiller dans ce qu'on veut moins montrer, peut-être.
Que dans une fiction. Ah, c'est intéressant.
En tout cas, qu'à la télé, en général. Ouais. Tu sais, on est moins propre au théâtre, souvent.
Moins propre, c'est bien dit. T'es vraiment convaincant dans ce rôle-là.
Merci.
Et moi, en fait, je te lance des fleurs, ça va te gêner. Moi, je te trouve vraiment convaincant dans n'importe quel rôle. Je dis souvent, tu peux me vendre n'importe quoi, puis je vais l'acheter.
Ah oui, OK.
Est-ce que tu penses que c'est une question de talent ou c'est le choix de rôle?
De choix de rôle, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une question? Je pense que c'est une question de parenté entre ce que t'acceptes comme acteur avec le rôle. Tu sais, c'est une affaire de casting.
Ouais.
Parce que quand t'es mal casté ou quand t'es dans un personnage que tu maîtrises pas, ou c'est là que tu peux devenir faux, ou c'est que tu peux... Tu sais, ça fait que...
Mais tu le sais-tu quand tu lis le scénario, tu dis « Ah oui, je vais être super bon, moi,
dans
la peau d'un policier, c'est moi, ça. »
Dans la peau d'un policier, pas nécessairement, mais dans le texte, en tout cas, il y a une musicalité, moi, que je vais chercher à ma première lecture, où je sais si j'ai ma place là, au moins, tu sais, si j'y vais vraiment à l'oreille, c'est drôle, hein, à dire.
Non, mais je me dis que c'est comme t'écris des
oui.
textes aussi, peut-être que t'as plus une sensibilité pour ça.
Peut-être que ça vient de là, oui, peut-être.
C'est drôle parce qu'au cinéma, il y a ce qu'on appelle des character actors, puis je sais pas s'il y a vraiment un mot en français pour ça, mais c'est vraiment des acteurs, des actrices qui se construisent une solide carrière, puis ils évitent presque tout le temps les rôles principaux, puis on connaît pas nécessairement leur nom, mais on les reconnaît d'un projet à l'autre, puis on dit, il était bon là-dedans. Puis c'est pour ça que peut-être aussi qu'ils sont tellement convaincants, c'est parce que c'est pas Brad Pitt ou George Clooney.
Ouais, ils ont pas de personnage public nécessairement.
Ben, t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu construis entre guillemets ta carrière de même aussi?
Ben non, j'ai pas de choix.
T'as pas de plan de carrière?
Non. Je connais personne. Je connais pas un acteur qui a un plan de carrière.
Okay.
Il y en a peut-être là, mais moi je connais pas personnellement les gens qui sont dans ma ligue, là, dans mes lettres à moi. Il y a personne qui a des plans de carrière. Tu peux pas faire un plan de carrière.
Est-ce que tu te considères un peu comme ce genre d'acteur-là, de comédien-là? Je veux pas dire caméléon.
Je serais un peu menteur si je disais ça, parce que j'ai pas eu à refuser. Tu sais, j'ai pas eu vraiment...
Okay.
Des fois, il y a eu des revues. Là, tu sais, quand tu te mets à faire de la télé, les revues à potin t'appellent un peu, puis tu peux dire non à ça. Là, tu sais,
tout à
ce
fait.
Que j'ai fait un peu, là, tu sais, à un moment donné, je m'intéresse pas, mais je veux dire, c'est pas non plus là, un dogme. Là,
je comprends. Non, mais c'est bon, si tu protèges jalousement ta vie privée, ça fait en sorte que je t'achète
peut-être.
Dans n'importe quel rôle et que je te trouve si
peut-être.
Convaincant.
Ouais.
J'entends aussi beaucoup de collègues me dire « Il est bon, Steve Laplante, mais il est encore meilleur au théâtre. »
Ah oui, hein? Ça veut dire que je suis un peu moins bon à la télé?
Non, ça veut pas dire moins bon, ça veut dire encore meilleur au théâtre. Es-tu plus à l'aise? Es-tu plus chez toi? C'est-tu plus ton univers?
Ça dépend des fois, ça dépend des moments aussi. Quand tu te mets à tourner beaucoup, ben là, à un moment donné, tu te sens dans tes pantoufles à peu près partout. Puis, mais je suis moins inconfortable au théâtre, c'est vrai, parce que j'en ai fait peut-être plus, j'en ai fait beaucoup. Puis.
Ça par rapport avec la caméra, le regard de la caméra, la projection de l'image.
Non, parce que quand à un moment donné, tu sais, des périodes de vie là, des fois où tu te mets à tourner plus, mais on dirait que c'est pas une beat, puis t'es pas, t'es dans tes pantoufles partout à un moment donné, ça devient. Mais tu sais, en même temps, quand ça fait un an que t'as pas fait de théâtre, t'arrives puis t'es en première, puis là, tu sais, moi j'ai un bon track là.
T'sais. Ah donc, oui.
Quand, ben tu sais, quand ça fait longtemps là, tu sais que ça fait,
oh, me semble
que ça fait longtemps, j'ai pas joué.
Okay.
Fait que tourner, c'est pareil, tu sais.
Oui, mais tourner, il y a la possibilité, là, c'est, hey, on n'apprend rien à personne, mais de tourner plusieurs prises, alors qu'au théâtre, c'est une fois, quasiment du direct.
Au théâtre, 120 heures de répète en arrière de la cravate. Quand t'arrives pour tourner, tu te mets sur le tape, puis t'as une répète, puis après ça, ce serait le fun qu'elle soit bonne, là, ta prise, là, parce que ça roule. Là, ouais.
Je fouillais le web à la recherche d'anecdotes croustillantes à ton sujet, tout ça, puis c'est bon, tu te gardes une aura de mystère. Moi, j'aime ça. T'es comme David Bowie, finalement.
Ah, exactement, les gens m'appellent souvent David.
J'ai fouillé dans une vieille entrevue du Voir, publiée en 2000. Non, attends, c'est pas gênant, mais tu disais que le théâtre avait bousculé ta vie. Ça a vraiment changé ma priorité.
Ouais.
C'est encore le cas?
Ben, c'est-à-dire que j'ai pris une sortie à un moment donné que je m'attendais pas vraiment à prendre à 18 ans, là, tu sais, quand j'ai décidé de faire mes auditions. Puis ça a comme complètement changé ma vie. J'étais pas enligné là-dessus. Je viens pas d'une famille où les arts sont...
prisés?
Non, puis c'est pas en avant. Puis, tu sais, j'allais pas au musée quand j'avais 7 ans. Puis, c'était que c'était une drôle d'affaire là, qui est arrivée à un moment donné.
Mais à ce jour, est-ce que tu dirais que tu... Tu sais, comme quand t'écris maintenant, je sais pas si tu planches sur quelque chose, sur quoi tu planches, est-ce que t'écris pour la télé, est-ce que t'écris pour le théâtre, est-ce que t'écris pour le cinéma?
J'écris pour la télé en ce moment.
OK.
Ouais. Ben, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça.
Oui, t'as le droit de tout dire. Ouais. T'es le maître de ton avenir et de ton présent.
Là, j'écris avec quelqu'un que vous connaissez, Fabien Cloutier,
qui
travaille sur une série. Et puis je m'excuse au producteur si j'avais pas le droit de le dire.
Pas grave.
J'ai obligé de le dire.
Aussitôt dit, aussitôt oublié.
Voilà, non. C'est ça.
est-ce que tu parlais de la musicalité de l'écriture du théâtre, est-ce que tu essaies de la recréer dans dans l'écriture de la télé? Non?
Ben, c'est-à-dire que la musicalité, là, Fabien, c'est une série autour de son personnage de Scott Stand, puis tu sais, il y a vraiment une langue là de ce personnage-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est d'attraper la langue de Fabien puis de la faire mienne, puis d'essayer de tomber, en tout cas, dans son univers le plus possible.
Le plus possible.
C'est ça.
D'être le plus vrai possible.
Voilà.
Ben voilà, Steve Laplante, ça a pas fait mal?
Hey, c'était super.
T'as-tu vu? C'était super. Vous pouvez voir Steve Laplante dans la pièce Invisible qui joue présentement au Théâtre La Licorne à Montréal. Je te souhaite une très longue carrière, pour vrai.
Merci,
vraiment.
Merci beaucoup
d'être venu.
On dira ce qu'on voudra. Dominique Tardif, on l'écoute.
Mitsou célèbre ce mois-ci le 30e anniversaire de l'apparition de la chanson « Bye Bye Mon Cowboy », son premier succès tiré de son premier album « El Mundo » lancé en novembre 1988. Cet album a été créé dans un appartement de la rue Saint-André à Montréal, là où habitait à l'époque le réalisateur et auteur-compositeur Jean-Pierre Isaac. Et notre chroniqueur Dominique Tardif est retourné sur ce haut lieu important de la musique pop québécoise des années 80. Salut!
Salut Rebecca, je te raconte d'abord comment on a eu l'idée de retourner dans cet appartement-là.
Oui.
Cette histoire-là, ça débute en novembre dernier, quand on a appris la mort de Patrick Bourgeois. C'est une mort qui nous a profondément attristés,
bien sûr,
mais qui a été aussi une occasion pour moi de me replonger dans une entrevue que Patrick Bourgeois m'avait accordée lors d'une des énièmes tournées retour des bébés. Une entrevue dans laquelle il racontait avoir enregistré le premier album des bébés paru en 1989 dans ce demi-sous-sol de la rue Saint-André.
Ah oui, parce que c'est vraiment un demi-sous-sol.
Oui, c'est un authentique demi-sous-sol. Et c'est à ce moment-là, donc, que tout le bureau d'enquête, dont on dira ce qu'on voudra, s'est mis à obséder. Oui, il y en a un bureau d'enquête. On s'est mis à obséder au sujet de ce demi-sous-sol-là. On a rapidement appris donc Jean-Pierre Isaac y avait habité, le réalisateur. On est entré en contact avec Jean-Pierre Isaac. C'est lui qui a programmé avec ses machines et ses claviers plusieurs des instruments qu'on entend sur le premier album des bébés et aussi réalisé leur deuxième album avec beaucoup plus de moyens au studio Victor.
Ah oui, changer
puis,
le budget.
Jean-Pierre Isaac nous a rappelé qu'avant les bébés, il avait réalisé l'album El Mundo de Mitsou. C'est lui aussi qui signe ou co-signe 7 des 9 chansons de l'album, dont La Corrida, dont Les Chinois. chinois, dont Bye Bye Mon Cowboy. Mitsu a donc généreusement accepté de remettre les pieds dans cet appartement-là avec nous. Un appartement qui est aujourd'hui habité par un couple, Liane et Francis, ainsi que par leur coloc Fanny. Francis et Fanny nous ont accueillis la semaine dernière parce que Liane est présentement en Inde pour le travail.
On sait tout, c'est vraiment une enquête.
Oui. Et puis bon, ce qui est le plus étonnant, ça a été de constater en mettant le pied chez Liane, Francis et Fanny que certains des plus grands tubes de la pop québécoise de la fin des années 80 ont été créés dans un lieu aussi banal.
Mais oui.
Et là, qu'on se comprenne bien, c'est vraiment très coquet, très bien décoré chez Liane, Francis et Fanny. Mais on parle d'un demi-sous-sol, tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
Okay.
On a remonté le temps, donc jusqu'en 1988, avec Mitsu, qui avait 17 ans à l'époque. Elle dansait à cette époque-là au Belmont, très très régulièrement,
dans
le coin Saint-Laurent et Mont-Royal. Et voilà, c'est là que Jean-Pierre Isaac était DJ. Il faisait jouer tous les groupes préférés de Mitsu. Mitsu, qui avait un peu goûté à la musique, d'ailleurs, elle s'est acheté plein d'équipements, dont un clavier Poly 800 de Korg, avec l'argent qu'elle avait accumulé grâce à sa participation au téléroman Terre humaine, dans lequel elle a joué de 9 à 11 ans. Elle a donc tenu à adolescente les claviers dans un groupe baptisé Dance Lab, mais elle souhaitait, bon, à l'aube de l'âge adulte, occuper de plus en plus le devant de la scène, et c'est pour cette raison-là qu'elle prenait régulièrement l'autobus jusque sur la rue Saint-André, son dernier arrêt avant le succès.
Allô? Wow! Ça a changé! Vous avez préparé les planchers, bonjour!
Oui,
ah, c'est drôle ça, parce que je déteste la marqueterie, c'est ce que j'aimais pas de cet appartement-là.
T'es bien content du dégât aussi.
Wow, vraiment, félicitations!
Salut. Fanny, enchantée.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Alors, ici habitait Jean-Pierre Isaac, qui était le réalisateur de l'album El Mundo, celui à qui j'ai demandé d'écrire Bye Bye Mon Cowboy. Habitait ici également Danny, qui était un directeur de production pour Bondoc.
Ouais. Un groupe très, très cool à l'époque.
Et puis donc, c'était vraiment la maison de la musique ici. Tous les musiciens débarquaient, autant les bébés, Marie-Carmen, et puis donc c'est ici que tout se faisait. On a fait des tests au niveau du son dans toutes les pièces. Donc, on a même fait des tests pour savoir si on pouvait bien enregistrer des chansons dans la salle de bain au niveau de l'écho. Ça fonctionnait pas. Donc, la pièce que l'on a choisie, c'est la chambre à coucher.
Oh, la chambre à coucher.
Je vous y emmène.
C'est la chambre à coucher de Francis, c'est ça?
À l'époque, c'était la chambre à coucher de Jean-Pierre Isaac. Il y avait un lit qui était juste là, par terre, placé par terre. Alors, je vois, c'est très bien. Déjà, vous avez rénové les planchers. En plus, c'est une base de lit, ce qu'il n'avait pas, lui, à l'époque. Et puis, donc, c'est en plein où tu es qu'on a enregistré Bye Bye les, Mon Cowboy, les Chinois, exactement dans cette position-là. Pas de souliers, bien entendu, pour pas qu'on entende les pas au micro. Et puis donc, en pied de bas, comme tu es.
J'ai un frisson présentement.
Veux-tu me chanter un bout de la chanson, Dominique?
J'oserais pas.
Juste ici, à côté, la chambre d'à côté. Il y avait donc, comme ici, une chaise à roulettes. Et puis, qui pivotait sur tout autour de lui, ses instruments qui étaient des synthétiseurs. Je pense qu'un seul instrument, réel instrument, qui a été utilisé pour la production d'El Mundo, qui est une guitare. Mais sinon, tout était fait avec ses fantastiques synthétiseurs puis un 8-track, je pense. Jean-Pierre était bien évidemment DJ, mais était producteur aussi, réalisateur. Donc, en sachant ça, je lui ai demandé donc de me créer une chanson un petit peu inspirée ou sur le même beat du moins que ma chanson préférée de l'époque, qui était Marcia Baila d'Erita Mitsuko. Et puis, donc, c'est lui qui est arrivé avec l'idée de Bye Bye Mon Cowboy. Et puis, par la suite, s'est inspiré probablement du personnage que j'étais aussi naturellement pour écrire cette chanson-là.
Donc, ceux qui pensent que Mitsu, c'était une chanteuse préfabriquée, ils ont tout faux.
Ben, en fait, elle était peut-être préfabriquée, mais par moi-même.
Oui, c'est ça.
C'est ça l'affaire.
C'est elle-même qui l'a fabriquée.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que je pense que personne n'aurait osé demander à une jeune fille, à part peut-être Gainsbourg, mais tu aurais demandé à une jeune fille de se mettre en scène de la sorte. Parce qu'il y avait un mix de personnages très, très... Bon, Lolita, évidemment, mais très coloré, je te dirais, un petit peu à la manga, à la bande dessinée.
Oui, c'est vrai.
Donc, et à la limite, un peu futuriste aussi. Donc, il y avait un mélange des années 50 et puis de ce qui se passait dans les années 80 également. Donc, c'est un peu toutes les époques, mais en même temps, ça créait quelque chose de très, très, très original qu'on avait peu ici au Québec. Non, non.
C'est un album qui parle beaucoup de désir, El Mundo. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que ça a pu jouer dans la relative condescendance avec laquelle tu as été reçu par une certaine intelligentsia? Parce qu'une femme, une jeune femme surtout, qui exprime son désir dans l'espace public, c'était tabou, ça l'est sans doute encore beaucoup
moi,
aujourd'hui.
Je pense que ça l'est encore.
Oui.
Définitivement, quand on pense à des Miley Cyrus, je pense qu'elle a vécu probablement un peu la même chose. Je repense à toute cette époque-là et à toutes les époques des femmes, de toute manière, le pouvoir de la sexualité féminine en est un très grand, en est un des plus puissants au monde, et je pense que on tentera toujours et encore de faire taire et d'amoindrir et d'étouffer ce pouvoir féminin de justement cette sensualité, cette sexualité là. Et puis j'ai l'impression que j'ai dû moi-même taire beaucoup ce pouvoir-là que j'ai pour pouvoir me faire accepter dans les médias, et ça a pris plusieurs années, tu sais. Mm-hmm. C'est depuis que je suis devenue mère de famille, femme d'affaires, qui a un certain respect. Mais sinon, je ne pense pas que j'aurais pu le faire sans moi me transformer. Et je suis la preuve que la sexualité féminine est encore un danger public pour bien des gens, instinctivement. Autant les hommes que les femmes, mais instinctivement. Avez-vous des questions, François,
oui,
Stéphanie?
Les questions des locataires actuels?
Celle qui nous brûlait les lèvres, c'était vraiment de savoir c'était dans quelle pièce que ça avait été enregistré. Fait que là, on a eu notre réponse.
On a eu notre
ça...
OK.
Liane va être bien déçue de t'avoir été, je pense.
Elle fait son vrai El Mundo.
Oui, c'est ça.
Wow! Bravo, Dominique Tardif! Elle était vraiment enthousiaste, hein?
Elle était très émue, Mitsou, de remettre les pieds dans cet appartement-là.
C'était authentique et sincère.
Imaginez-vous, Rebecca, qu'elle a même signé le mur. Bon, c'est un mur, là, une sorte de mur tableau sur lequel on peut écrire avec des craies, mais Francis a quand même accepté d'effacer les consignes que lui avait laissées sa blonde, qui est partie en Inde. Elle lui avait laissé des consignes pendant son absence pour faire place à la signature
de Mitsou. Wow.
On vous invite à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux pour vous donner des images de notre visite de cet appartement-là.
Ben oui.
Puis, je vous suggère, si vous voulez voir de quoi avait l'air l'appartement en 1988, de taper Caméra 88 dans YouTube. Vous allez tomber sur un reportage de TQS tourné en partie dans cet appartement-là.
Puis on la voit chanter?
On voit Mitsou chanter dans la chambre à coucher, qui est aujourd'hui la chambre à coucher de Francis et Liane.
C'est trop drôle. Merci beaucoup, Dominique Tardif. Oui,
merci,
vous surveillez ça demain sur notre page Facebook, un reportage vidéo de ta rencontre.
On dira ce qu'on voudra. Julien Morissette déteste pas tout, dans le fond.
Si on soulevait la poussière, debout la face au vin, est-ce qu'on retrouverait tous nos repères? Mais où sont les règles du jeu, qu'on y mette le feu?
C'est ce jeudi 1er mars que débute sur Télé-Québec la deuxième saison de Microphone, émission musicale animée par Louis-Jean Cormier, populaire auteur, compositeur, interprète. Certains diraient même chouchou du milieu. Mais pourtant, notre chroniqueur Julien Morissette, qui se fait un petit peu plus d'ennemis à chacun de ses passages, vient nous nommer 10 choses qu'il déteste de Louis-Jean Cormier, qu'il considère comme un intouchable. Allô,
oui.
Julien!
Allô, Rebecca!
On le sait, tes chroniques, de ton propre aveu, là, viennent bousculer la culture du coup de cœur.
Ouais,
mais là,
j'ai
envie de te dire, t'as peur de rien.
Ben là, c'est un exercice que je fais avec beaucoup d'humilité, d'habitude, mais je dois avouer qu'aujourd'hui,
C'est une tâche qui dépasse le travail d'un seul homme. J'ai donc emprunté la technique Olivier Niquette.
Ah oui?
Et j'ai lancé un appel à tous, soit sur Facebook, pour que d'autres gens écrivent la chronique à ma place pour m'inspirer.
Bon, c'est que t'es paresseux en plus. Est-ce que les gens ont répondu?
Ben, je me rends compte que le peuple veut être entendu, alors je serai son porte-parole. Le peuple a parlé, et j'espère que ses proches ne sont pas à l'écoute. Donc, première raison pour laquelle tout le Canada déteste Louis-Jean Cormier. Il donne un surnom à sa foule. Et ça, là, par exemple, à Gatineau, à la salle Jean Després, il nous appelle Jean. Il dit « Bonjour Jean, comment tu vas ?» Il personnalise sa foule. Et en plus, il tutoie son public, comme en témoigne cet extrait.
C'est de la poésie. C'est très sport avec ça. Tu vas t'en sortir, là. Ça devrait pas te toucher. Tu t'en rappelleras plus, là, demain ou après-demain. De toute manière, tu es alcoolique comme moi.
Donc, vous savez ça... Si vous avez écouté ma chronique 10 choses que je déteste, dont on dira ce qu'on voudra.
Oui, c'est vrai.
Je déteste le tutoiement. Et imagine dans un spectacle, on parle de radio, mais dans un spectacle de Louis-Jean, là, je me demande où s'en va notre monde. Je comprends plus les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes. Les spectacles, justement, il a annoncé cette semaine que Carquois se réunira une seule fois en 2018.
Mais attends, tu devrais te réjouir, non?
Ouais, mais là, le problème, c'est que le spectacle aura lieu au Saguenay. Et là, je me demande depuis quand on met la culture de l'avant dans les régions. Il me semble que ça marche pas. Ça aurait pu être un show.
C'est très drôle.
Ben oui, de Sherbrooke. On sait bien. T'sais, Montréal, oui, il a fait l'année passée un retour de Carquois. Peut-être Québec à la limite. Mais là, le Saguenay, je comprends juste pas. Et pour un gars comme moi qui habite Gatineau, qui, on va se le dire, la métropole culturelle du
vraiment,
pays.
Oui.
Ouais, c'est vraiment insultant.
Okay, okay.
Troisième raison de détester Louis-Jean Cormier, il a un amour fou de la lettre K et ça devient gossant à la longue. Son premier groupe s'appelait Calambo.
Ouais,
avec un K. Il y a eu Carquois, dans lequel on retrouve, si mon calcul est bon, là, 2 K sur 6 lettres. Même sa gérante s'appelle Christa avec un K.
C'est
vrai? Ça a même pas l'air d'un vrai nom. Et surprenant qu'il n'ait pas changé le C de Louis-Jean Cormier pour un K.
Ça serait un peu douche.
Ça serait concept.
Oh!
Je poursuis dans le dossier Carquois, quatrième raison.
Okay.
Raison. Plusieurs internautes ont mal réagi à la vente de la chanson Le Pyromane à Coca-Cola. Hey, ça fait 7 ans. On peut s'en revenir. Mais les gens l'ont encore sur le cœur.
Vraiment?
Je dois dire oui. C'est revenu souvent et je les comprends. Si je prends un exemple comme ça au hasard, est-ce que vous avez pensé un peu à ce qui est arrivé à Donald Pilon depuis les pubs de McDo pour sa pizza, là? Moi, je mange plus de pizza du McDo depuis le début des années 90.
Ça a coûté la carrière à Donald Pilon, tu vas nous dire,
Et mon amour de la pizza du McDo. Et parlons de vendre son âme, numéro 5, Louis-Jean Cormier a été coach à la voix.
Oui, évidemment.
Et ça, en soi, je trouve ça bien correct, mais j'ai vécu un grand moment de malaise télévisuel quand il l'a interprété, tout le monde en même temps, qu'on entendait il y a quelques minutes, sur le plateau de l'émission. C'était en 2013. Il était accompagné de Marie-Mé, Charlotte Cardin, qui n'était pas encore très, très à l'aise sur scène, et une fille qu'on connaît pas. On sait pas trop ce qui est arrivé à cette fille-là, mais c'est pas bien grave. Derrière Cormier, on pouvait voir une chorégraphie avec des signes de paix géants.
Ouais.
C'était un peu quétaine, tenue par du monde qui dansait, un genre de faux hommage aux manifs du printemps arabe. Et le festival du malaise a atteint son apogée quand on se rend compte que Charlotte Cardin ne connaît pas trop les paroles. Et là, on essaie de faire un découpage télévisuel pour « Ah non, faut pas montrer Charlotte qui chante pas la bonne affaire ». Et l'autre fille qu'on a oubliée met beaucoup trop de feeling dans la toune avec un petit cri de chat.
Si on faisait marche arrière pour reprendre notre élan, est-ce que l'on éviterait le cratère? Mais où sont les règles du jeu?
C'est drôle, ça, le petit festival de chat. C'est un festival de malaise. J'en ai un festival de malaise pour toi. Revire-toi de bord. Alors voilà, Louis-Jean Cormier qui est venu en studio. Oh mon Dieu, on est en train de faire Julien Morissette. Rapproche. Julien,
continue,
Julien,
continue.
Julien.
Hey, je veux juste
Julien,
te dire premièrement que je suis d'accord
minutes.
Avec tout ce que tu dis depuis le début. Ça revient.
Reviens vers nous. Bonjour Louis-Jean Cormier. Oh, ils se font une accolade. Mon Dieu, je pensais pas qu'on allait le déstabiliser tant que ça.
Je suis un professionnel, hein, parce que je peux
bon, t'es-tu capable de continuer?
Ouais,
t'es rendu à la maison numéro 6.
T'étais rendu au cri de chat.
C'est quoi le nom de la fille?
Je sais pas.
Toute personne s'en rappelle, on s'excuse, on va googler ça tantôt. Numéro 6.
Ouais, ça arrive au pire moment, Louis-Jean, je m'excuse. Je suis un fan de Carquois depuis longtemps. Et là, certains vont dire que je baisse les armes. Mais non, je continue. On va écouter une pièce qui date de 2003, tirée du pensionnat des établis. Végétation, on écoute ça.
Les gens vont dire que tu es fatigué et qu'il te manque quelque chose, que tu ressembles à un restant de mononucléose. T'as vu le large, t'as mis ton pied dans la marge, t'as fumé probablement respirer un pouvoir étrange. Tes bras sont secs comme des branches secs, comme l'écorce qui t'enroule autour de tes hanches.
Je dois dire que...
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, là?
Ça, c'est la pièce Végétation.
Eh, oui,
2003.
J'ai fait la garderie.
Ouais, ben, non, mais je dois dire que même si on dépouillait la pièce autour d'un vieux micro avec un banjo et une bonne choriste, je pense même pas que ce serait bon en spectacle. Je m'excuse, Louis-Jean.
Non, non, t'as raison.
Numéro 7?
Ah, là, on rentre dans le sérieux, là.
Oui,
j'ai un ami mélomane qui m'a fait remarquer cette semaine quelque chose d'intéressant. C'est peut-être un hommage. Il s'appelle Guillaume et il fait les listes d'écoute pour Spotify Canada. Il parlait il travaillait anciennement à Barbare. Alors, je lui fais confiance là-dessus. Il m'a dit que Louis-Jean est responsable des mélodies en voyelles qu'on retrouve désormais partout dans la musique francophone. Montage.
C'est
beaucoup
drôle.
De voyelles, hein, quand même.
J'avoue, de même, c'est...
Voilà, c'était avant les onomatopées
d'Alex Nevsky. Oui, papa. Très fort, très fort. Numéro 8, t'es capable,
numéro
8, t'es capable.
Bon, oui, Louis-Jean Cormier a déjà collaboré avec Fred Pellerin sur la bande sonore de La Guerre des Tucs 3D.
Oui.
Et ça, ben, je t'aime trop, auditoire, je te tutoie pour te faire écouter ça. Alors, je passe tout de suite à la neuvième raison. Une raison qui est peut-être superficielle. Là, je suis peut-être en manque d'inspiration parce que Louis-Jean est dans ma face en ce moment.
Oui.
Mais avec Louis-José Houde, on peut dire que tu es coupable de la recrudescence des noms composés en Louis chez les enfants québécois. Là, j'ai fait une étude statistique avec le bureau d'enquête dont dira ce qu'on voudra. Merci Dominique Tardif pour le coup de pouce. Il y a eu 5 Louis-Jean en 2015 et 2016. Il n'y en avait eu qu'un par année dans les années précédentes.
Pour vrai?
Il y a eu 2 Louis-José. Il y a même eu un Louis-Sven.
C'est
un peu bizarre.
C'est exagéré.
Mais si on veut remettre les choses en perspective, il y a eu 580 Logan en 2016. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est pas si grave. 5-6 Louis-Jean en 2015.
Logan,
2016.
C'est Walking Dead, ça?
Ouais, ça doit être. Oui, ben oui.
Je pense que oui.
Ben oui, mais
c'est
là, je me suis
dit. Walking Dead.
Ah, c'est peut-être Wolverine.
Ouais, ouais,
bravo,
ouais.
Bravo pour ta culture générale. Ouais, dixième et dernière.
Il a une très grande culture générale. Dixième, je dois dire là, que Louis-Jean, tu pourrais chanter n'importe quoi et ce serait bon.
Oh.
Ça nous rend tous très jaloux. Ça, c'est vrai. Tu pourrais te risquer à reprendre du Danny Bédard, du Dominique Hudson ou même du Jacques Villeneuve et ce serait sûrement bon. Tu as repris tout. La preuve, même ce soir, L'amour est dans tes yeux de Martine Sinclair, on pensait qu'on aurait oublié cette pièce-là. C'était un succès une fois, il y a très longtemps. Mais là, je dois même dire que ta reprise est meilleure que celle de Pavarotti. Donc, on écoute celle de Luciano. Et celle de Louis Jeannot.
Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Mais demain matin, penseras-tu à moi?
Et t'es en train de dire que c'est une toune de...
Martine Sinclair?
Non, mais tu disais que c'est une toune de Puccini.
De Puccini, ouais.
C'est drôlement inspiré.
Drôlement inspiré, ouais. Mais il y a même Marc Hervieux qui avait fait un mélange des deux pièces. Je pense que c'était en 2010, mais il y a quelques petites familiarités.
Mais bravo. C'était les 10 choses que Julien Morissette déteste de Louis-Jean Cormier avec Louis-Jean Cormier dans la face de Julien Morissette. Vraiment, on se le reproche. On voulait voir si t'étais capable d'assumer jusqu'au bout devant ta cible.
On a la preuve.
On a la preuve. Puis peut-être après, Louis-Jean, tu pourrais t'inspirer de certaines choses. Tu tutoies ton public, ça irrite les gens. Oui, quoi d'autre? Quoi d'autre, il y a trop de cas dans ta vie, puis que c'est ça, Carquois ou dans les régions, n'est-ce pas? C'est à peu près ça.
Franchement,
Saguenay. Yatino. Merci beaucoup. Merci Louis-Jean Cormier pour la visite. Merci Julien Morissette. Merci Steve Laplante. Merci Dominique Tardif. Demain, une lettre d'amour au respectable. Oui, c'est possible dans le cadre de leur tournée de 25 ans. Je m'appelle Rebecca McAllen. On sera de retour demain, 20h30.